Donc vous l'aurez compris, le thème d'aujourd'hui est d'essayer d'envisager notre avenir avec Dieu. Et Samuel l'a introduit dans sa prière, le moment des examens, le moment des études pour certains en ce moment. En tout cas, quand j'étais étudiant, je pouvais être tiraillé dans cette période-là, tiraillé entre le foot du samedi matin et le moment que je devrais consacrer à mes révisions. Et j'avais tendance souvent à me souvenir de certaines fois où j'avais peu révisé et je m'en étais bien tiré, présumant qu'à nouveau, ça allait se passer de la même façon, vous connaissez, et ça pouvait être un mécanisme chez moi qui était répété. J'ai répété longtemps ce mécanisme d'être bien médiocre dans mes études, dans mes révisions. Et finalement, sans trop de surprise, ça s'est transformé, ce qui devait être ma dernière année, s'est transformé en deux dernières années d'études. Et voilà, un redoublement qui m'a bien remis à ma place. J'en avais besoin. Je rêvais de belles choses d'avenir pendant mes études. Et au lieu de m'attaquer au problème du jour, ce qui était révisé, j'envisageais de belles choses. Nous sommes tous un peu désordonnés. Peut-être ça vous parle, cette manière d'être désordonné dans nos priorités. Le fait de projeter au loin quelque chose nous fait parfois manquer la cible toute proche, la responsabilité immédiate qui est la nôtre. Ce que nous devrions considérer donc en priorité. Nous allons continuer dans la lettre de Jacques. Je vous invite déjà à prendre le chapitre 4, versets 13 à 17. Donc, ce qui est intéressant dans les écrits de Jacques, peut-être mettre la slide. Ouais, non, c'est bon. Donc, ce qui est intéressant dans ce que Jacques nous enseigne, c'est assez pratique finalement. Ça touche un grand nombre de sujets, l'incohérence entre nos convictions et nos actes. Ça touche aussi, nous avons vu les semaines précédentes, la puissance des mots, la puissance de nos paroles. On a encore vu la semaine dernière le sujet des disputes. Et aujourd'hui, ce matin, nous allons vraiment considérer l'avenir sous un angle nouveau. Nous allons voir que la réussite de notre avenir implique une sagesse dans notre présent, dans notre responsabilité immédiate, ce qui impacte toute notre vie future. Je vous invite donc à prendre la lecture en Jacques chapitre 4, les versets 13 à 17. Je vous fais lecture. Jacques 4, 13 à 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Jacques s'adresse ici à des personnes qui, tout en ayant connu Dieu, ont tendance à considérer, malgré tout, leur richesse comme un moyen de se sentir en sécurité. Ça va être un objectif qui va dicter leur vie, gagner plus. Et il n'est pas mauvais de réfléchir à une meilleure situation financière. Mais le problème des auditeurs de Jacques est profond. C'est un problème d'insatisfaction chronique. Leur but de vie et de gagner de l'argent. Alors logiquement, toute leur vie sera réfléchie pour cela. Et on pourrait penser qu'ils ont des belles capacités, en talent. En tout cas, financièrement, ils ont des capacités. Ils pourraient faire de belles choses dès à présent, mais au lieu de cela, ils remettent à demain le bien qu'ils pourraient faire aujourd'hui. Sauf que demain, si leurs raisonnements sont toujours aussi insensés, va-t-il y avoir pour autant du changement ? Peut-être pensent-ils que la mort ne va pas les atteindre, qu'ils sont au-dessus de cela. Cette attitude a un nom, la présomption. La présomption, plus précisément, c'est une fausse certitude de l'avenir, une assurance fondée sur aucune preuve que la chose va arriver telle qu'on l'imaginait.
Et nous allons voir aujourd'hui qu'il est nécessaire, pour envisager notre avenir dans la foi, de se débarrasser de la présomption. Jésus avertit les foules qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ici, Jacques nous explique au verset 16 que le danger est plus profond. Il vient du fait que nous tirons notre gloire. Qu'est-ce que c'est notre gloire ? C'est notre fierté, notre assurance. Et nous tirons notre gloire dans nos pensées orgueilleuses. Dans un tas de raisonnements qui semblent nous convenir pour continuer de vivre et de mener la vie dont nous avons toujours mené. Au fond, nous ne voulons rien changer. Nous ne voulons pas nous attaquer au problème du jour. Et c'est cela qui nous nuit et nous freine à faire confiance à Dieu aujourd'hui. Penser que tout va bien, que la vie n'est qu'un éternel recommencement, pas de fin en perspective, je ne crains rien. Finalement, l'erreur de ces personnes à qui Jacques s'adresse, c'est qu'ils ont écouté leur propre sagesse. C'est en ça qu'ils sont devenus fous. Ils sont convaincus qu'en anticipant une multitude de paramètres et de détails, ils ont le contrôle sur les choses. Ils ne font aucun cas de Dieu, du coup. Faire la volonté de Dieu, à quoi bon ? Alors l'autre problème de la présomption, c'est que nos raisonnements et nos richesses ne peuvent pas nous dire de quoi demain sera fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de trop nombreuses variables à penser pour envisager notre avenir. Êtes-vous certain que votre plan sur 5 ans va se dérouler vraiment comme vous l'aviez entendu, malgré toutes les réflexions et les anticipations que vous avez faites ? Un projet dépend d'une multitude de paramètres sur lesquels nous n'avons juste aucun contrôle. Je pense à... On a évoqué des éléments de géopolitique ce matin. Qui aurait dit la dissolution de l'Assemblée nationale ? Qui aurait dit la guerre en Ukraine ? Qui aurait prédit toutes ces choses ? Avions-nous pensé à ces choses quand nous sommes partis sur un projet de construction, les budgets revus à la hausse dans l'immobilier, les coûts des matériaux, tout ce genre de projet, et je ne parle que d'une construction ici, mais les exemples seraient très nombreux qui ont été bouleversés par le Covid, la crise économique, etc. Trop nombreux sont les paramètres qui influencent notre avenir, et c'est pour cela qu'on a besoin de la sagesse de Dieu. Et c'est cette sagesse d'en haut qui est réconfortante et reposante. C'est tellement bon de soumettre nos projets à Dieu, de se laisser guider par celui qui sait tout, le Dieu omniscient. Quelle charge et quel épuisement de réfléchir à tout. Et quand on a réfléchi à tout, tout tombe à l'eau parce qu'on n'avait pas réfléchi à tout. Il y a un élément qu'on n'avait pas anticipé. Quand Jacques nous exhorte à demander la sagesse de Dieu, c'est parce qu'on en manque. Sa sagesse, elle est reposante. Elle nous évite, vous savez, les interminables tourments liés à notre propre raisonnement. Peut-être vous êtes créatif, peut-être les scénarios que vous vous faites dans votre tête, ceux qui vous donnent l'illusion de tout contrôler. Plan A, mais je sais que ça ne va pas être le plan A, mais j'ai le plan B et le plan C. T'inquiète, Seigneur. Eh bien, c'était plan D. Désolé. Je vous invite à réfléchir à combien cette sagesse de Dieu est plus qu'importante, elle est indispensable à notre vie. Et en plus d'être reposante pour notre âme, la sagesse de Dieu nous rend plus lucides et nous invite à nous poser des questions plus profondes et essentielles. Vous avez peut-être déjà été dans le cas où un enfant, peut-être votre enfant, vous a posé une question qui vous-même vous trouble un peu. Vous savez, après des obsèques, par exemple, combien d'enfants commencent à réaliser le côté éphémère de la vie ? Et à la question « Papa, est-ce qu'on va tous mourir ?», je serais curieux d'avoir vos réponses en tant que père. Est-ce que votre réponse serait plutôt « Regarde, c'est ton dessin animé préféré à la télé ?» Faire diversion ? Ou bien « On en reparle plus tard ?» Procrastiner ? Ou « T'inquiète pas, ça va aller, papa est là !» Demi-vérité, ça va aller, pas sûr. Papa est là, j'espère. Mais ça va pas aller, on parle de la mort, là. On peut pas dire ça va aller avec la mort. Alors, je sais pas quelle est votre technique à vous pour être en paix face à cette question, mais Jacques, lui, il est frontal dans notre passage. Ne cherche pas la diversion, ne joue pas de dissimulation. À ce sujet, il est cache, notre vie n'est qu'une vapeur. Question pour nous qui anticipons tout, toujours jusqu'à prévoir nos vacances dans 5 mois. As-tu vraiment tout anticipé dans ta vie jusqu'au maximum, du maximum que tu puisses? Si oui, tu es déjà en paix avec cette dernière échéance, cette échéance ultime. Il y a cette échéance ultime de la mort qui devrait être un élément de réflexion décisive pour chacune de nos vies. Et Jacques, lorsqu'il parle de ça, il veut susciter chez ses auditeurs un questionnement pour la recherche d'une solution plus puissante. Il ne veut pas seulement nous laisser dans le tourment. Il connaît la solution plus puissante. Il a vécu à ses côtés. Donc, qui peut déjouer la mort? C'est la vraie question qu'on peut se poser. Qui peut déjouer la mort? Et Jacques, qui a vécu aux côtés de Jésus-Christ, se souvient sans doute lorsqu'il nous dit ça. Et je vous lis un texte dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24, c'est 3 jours après la mort de Jésus et sa mise au tombeau. Je vous en fais la lecture, les premiers témoins de cela sont des femmes qui viennent pour porter des aromates. Je vous fais la lecture. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparées. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Ces femmes, encore sous le choc de la mort du Seigneur Jésus, sont devenues les témoins privilégiés de la victoire ultime, celle de la vie sur la mort. Ce même Jésus qui pardonnait les péchés, ce même Jésus qui guérissait les malades, celui dont la vie n'est pas vapeur, leur fait désormais envisager leur avenir sous un nouvel angle. Une perspective heureuse, éternelle et glorieuse. Voilà cette bonne nouvelle qui contraste avec nos raisonnements tout humains. Nous mettons souvent beaucoup d'assurance dans ce qui n'est pas certain d'arriver, au lieu d'avancer humblement dans les promesses révélées de Dieu, les promesses certaines, en reconnaissant avec foi que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Nous comprenons que Jacques nous invite donc à nous détourner de nos assurances infondées, notre présomption, pour nous tourner vers Dieu. C'est donc un appel à planifier sa vie avec foi. Et je ne voudrais pas vous laisser croire que Dieu ne veut pas que nous projetions des choses. Nous sommes appelés à projeter, à faire des projets. Jacques, dans le verset 15, nous parle de faire ceci ou cela, c'est ce qu'il sous-entend. Projeter, planifier. Cependant, il y a une bonne manière de faire des projets qu'il exprime ainsi, et on va lire le verset 15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Peut-être est-ce le temps pour vous d'envisager des études pour exercer un travail, ou de chercher un travail pendant un temps de chômage, ou dans un temps d'abondance financière, de réfléchir comment, et surtout pourquoi, mettre de côté. Toutes ces choses sont bonnes. Jacques nous invite à chercher Dieu en faisant sa volonté, donc en le mettant en premier, c'est-à-dire avec foi. Toutes ces choses, les faire dans la foi. Et voici quelques questions pour nous aider à tester nos motivations. avec qui et pour qui je fais mes plans? C'est-à-dire, qui est au bénéfice de mes projets? Est-ce que c'est moi seulement? Est-ce que c'est ma famille et moi? Est-ce que c'est ma famille, moi et mon Église? Ça a un tout autre sens et une toute autre perspective. Dans quelle perspective, justement, nous bâtissons nos projets? C'est révélateur. La manière dont on s'entoure pour nos projets est aussi révélateur de la perspective que nous donnons à notre projet. Est-ce que je cherche ma gloire ou celle de Dieu? Mais il s'agit plus que d'une simple introspection très analytique ici. Le roi David, auteur de nombreux psaumes, ne va pas s'arrêter à l'analyse qu'il a de lui-même. Il va plus loin, il ose en fait parler à Dieu. Il parle à son Dieu. Je vous lis comment il l'exprime au psaume 139, verset 23. Il demande à Dieu, « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. » En fait, David, ici, veut être remis en question par Dieu. Il a ce courage d'exposer ses plans à Dieu et cette humilité d'être remis en question par Dieu. Une manière d'avancer avec foi consiste à prier Dieu. On l'a vu dans l'exemple de David. Lui qui nous connaît parfaitement, pourquoi ne pas lui demander? Pourquoi ne pas aller vers celui qui nous connaît? Prier, c'est s'adresser à Dieu simplement avec nos mots, en se rappelant qui il est. Il est le Dieu parfaitement sage. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il prend plaisir à m'écouter. Et donc, c'est nous soumettre à ses pensées, c'est un gage de sagesse pour notre vie et d'humilité. Nous avons besoin d'être remis en question. J'ai été à ce sujet encouragé par un frère il y a 2 semaines qui me partageait un dilemme qu'il avait dans son cœur. Il y avait devant lui 2 options possibles, un choix avec 2 options. Toutes les 2 étaient bonnes. Mais il était tiraillé, il fallait qu'il décide vers quoi aller. Et il m'a dit, tu sais ce que j'ai fait, Nicolas? Je me suis mis à prier, particulièrement, pour ce sujet. Alors moi, curieux, je lui ai demandé, mais alors, t'as ta réponse? Il me dit, je ne sais toujours pas précisément ce que je dois faire, mais j'ai passé vraiment un bon moment avec Dieu. Ce frère n'a pas eu de réponse concrète à sa question. Mais il a eu Dieu lui-même. Il a passé du temps dans la présence de son Dieu, ce qui pour lui a été un gain bien plus grand que la réponse à sa question. Il a été apaisé, il était satisfait de ce temps passé avec le Seigneur. Alors comme l'exemple de ce frère, nous avons besoin de soumettre nos projets à Dieu, pas tant et pas seulement pour que nous ayons la réponse, mais bien plus. Parce que nous avons besoin de la présence de notre Dieu. Voilà, l'écrivain Gordon Keady écrit, je vous lis un passage qui, je pense, nous concerne pour beaucoup. « Les gens peuvent se comporter de façon étrange quand ils sont amoureux. Un jeune homme chrétien tomba amoureux d'une jeune fille dont il avait fait la connaissance à l'université. Il voulait l'épouser. Et bien que ne recevant pas de vrais encouragements dans ce sens de la part de celle-ci, il se persuada de plus en plus qu'elle était l'épouse que le Seigneur lui destinait. Prenant un jour son courage à deux mains, il lui fit part du fait que le Seigneur lui avait dit qu'il devait se marier. Prise de court, elle ne put que lui répondre que pour sa part, le Seigneur ne lui avait pas dit cela. Et que les choses étant ce qu'elles étaient, il n'allait certainement pas se marier. La romance était finie et ils ne se marièrent jamais. L'auteur commente cette anecdote en disant « Les chrétiens peuvent, eux aussi, s'imaginer trop de choses au sujet de leur projet d'avenir. Il est possible d'oindre nos convictions intérieures de la certitude d'un décret divin, alors qu'en fait, nous nous trompons nous-mêmes. Dans sa passion pour la jeune fille, le jeune homme de notre exemple tira trop vite des conclusions au sujet de la volonté de Dieu. » Et l'auteur ajoute « Là où la volonté divine n'est pas explicitement exprimée noir sur blanc dans la parole révélée de Dieu, nous avons besoin, tous besoin, d'une sainte méfiance vis-à-vis de notre propre cœur et d'un peut-être pieux quant à ce qu'est ou non la volonté de Dieu. Je pense qu'on peut tous se reconnaître dans cette histoire. Et comment éviter le désastre, le désespoir en tout cas, de ce jeune homme amoureux ? Bien comprendre déjà quel était son problème. Le jeune homme a placé tant d'assurance et passé tant de temps à se convaincre de quelque chose qui n'était pas certain, au lieu de mettre toute son énergie dans des choses que nous savons utiles pour le projet de Dieu, des choses qui nous sont clairement révélées dans sa parole. Et vous connaissez certainement cette sensation de regret lorsque on se trompe. Il y a une double amertume, quelque part. Une première amertume liée à notre culpabilité. Ah, si j'avais vraiment cherché à faire la volonté de Dieu, si j'avais vraiment écouté les conseils de ce frère, j'en serais pas là. Et qu'est-ce que la Bible disait à ce sujet aussi ? Et la deuxième part d'amertume, de savoir que pendant tout ce temps, j'aurais pu faire autre chose, des projets à la gloire de Dieu. Des projets à la gloire de Dieu, les amis, on se rend compte de qui on sert. Mais je ne veux pas vous laisser dans le découragement si vous êtes dans cette expérience de regret en ce moment. Jacques nous donne la solution joyeuse et immédiate. Détourne-toi de tes voies orgueilleuses, présomptueuses. C'était notre premier point. Tourne-toi vers Dieu avec foi. C'est ce dont nous avons parlé. Et accomplis maintenant ce que tu sais être bon pour aujourd'hui. Ce qui nous amène à notre verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alors peut-être le défi de l'obéissance te paraît être ridicule. Mais c'est pourtant par les petites victoires d'obéissance d'aujourd'hui que tu vas progresser dans d'autres projets d'avenir pour servir Jésus. On néglige souvent les petits défis parce que ce n'est pas ces défis qui sautent aux yeux. Et souvent, on cherche le regard de l'autre plus que la faveur de Dieu. Mais je voudrais vous encourager, chacun où vous en êtes, à persévérer dans la foi, dans les petits défis. Peut-être si tu es très fatigué en ce moment, tu te dis, je vais envisager un super programme sur 3 mois de remise en forme sportive. Peut-être le défi immédiat, c'est déjà de te coucher plus tôt le soir. Peut-être envisages-tu d'acheter un super barbecue et une décoration d'intérieur dans ton logement parce que tu as mis de côté pendant plusieurs mois. Parallèlement, tu as une dette envers un ami qui n'est toujours pas réglée. Responsabilité immédiate. C'est vrai, certains de nos comportements, comme ces exemples, sont parfois tellement contradictoires. En fait, ils montrent avec ironie notre capacité à envisager de grands projets d'avenir et en même temps notre incapacité à tenir un petit engagement ou régler ce que je peux faire dès aujourd'hui. Je peux obéir à Dieu maintenant, me conformant à sa volonté. Après les choses qu'on peut corriger, comme les exemples ici, je voudrais vous donner des exemples de choses que l'on peut faire dès aujourd'hui, et on a eu quelques exemples tout le long du week-end. Peut-être aimes-tu chanter ? On a évoqué le concert gospel hier soir. Notre église a le privilège d'avoir des chefs de chœur, des musiciens, et nous sommes reconnaissants du travail de Samuel et Rachel particulièrement. Tous les vendredis soirs, c'est une occasion de se réunir, de passer des temps fraternels, un bon moment à louer Dieu en chantant les vérités de sa parole. C'est une manière de rentrer dans ses plans. Une autre manière, peut-être, de vouloir progresser dans la foi en échangeant avec d'autres autour d'un texte biblique et d'un moment de prière. Ça tombe bien, on a des groupes de maison qui se réunissent toutes les semaines. Je vous invite, si vous n'en faites pas partie, de venir voir les pasteurs de l'église ou des responsables, les anciens, pour vous renseigner à ce sujet. Encore, vous sentez que vous êtes bien, vous avez juste, il vous manque de peut-être redonner ce qu'on vous a donné, un peu servir l'Église, servir les autres. Eh bien, nous avons pas mal de manières de servir dans notre Église, très variées. Je pense même à la navette qui amène, qui vous disposez votre véhicule et vous conduisez du métro au lieu de culte pour pouvoir amener les personnes qui viennent en métro. C'est une des manières, mais il y en a beaucoup d'autres. Je vous invite aussi à poser toutes vos questions à ce sujet aux responsables. Donc on a vu qu'il y a plein de manières de faire la volonté de Dieu. Et souvent, on pense juste que ça va être ennuyeux de faire la volonté de Dieu. On présuppose des choses qu'on ne connaît pas. Et je veux vous raconter juste un petit témoignage à ce sujet, qui c'est personnel. Vous savez, le mot « Dieu m'a dit » qu'on utilise souvent pour se persuader, donc un peu comme le jeune homme amoureux, on se persuade de quelque chose dont on n'est pas très certain, qui n'est pas clairement révélé dans la parole. J'ai parfois utilisé moi-même. Lorsque je voulais tellement quelque chose que j'essayais de me convaincre que Dieu lui-même voulait ça pour moi. Mais parallèlement, je ne cherchais pas dans la Bible ce qu'il disait à ce sujet. Parce que je ne voulais pas voir ce qu'il y avait dans la Bible. J'avais peur que ce soit vers ailleurs qui m'emmène. Et en fait, je comprenais mal les choses. Je croyais que faire la volonté de Dieu serait pénible et ennuyeuse. Je croyais qu'assouvir mes désirs personnels allait être plus joyeux que ses désirs, sa volonté. Je ne comprenais pas que la joie de mon cœur dépendait de sa volonté. Je ne comprenais pas que faire sa volonté, c'est comme une nourriture qui comble l'âme en profondeur, qui peut guérir des blessures et qui donne un sens à tout notre avenir. Alors, avant d'envisager de grands projets, est-ce que je suis certain de faire la volonté de Dieu dès aujourd'hui? Jacques nous invite à ne pas nous réfugier dans notre présomption qu'on a beaucoup de temps devant nous. Il nous appelle plutôt à mettre notre foi en marche dans les circonstances actuelles. Ce message, il est d'autant plus pertinent pour nous aujourd'hui. Il y a tellement de manières, de choix devant nous. D'activité, on parle de l'activisme. Mais questionnons nos activités. Est-ce que c'est une source de distraction? Est-ce qu'il n'y a pas des activités dans l'Église qui me procureraient bien plus de joie et dans lesquelles je serais très bien? Nous pouvons servir Dieu dès aujourd'hui. La foi vivante et véritable consiste à comprendre la volonté de Dieu et voir les besoins autour de nous afin d'entrer dans la joie de servir ce Dieu qui tient tout notre avenir entre ses mains. Je sais qu'en me mettant à son service, je ne rate rien de mon avenir. Bien au contraire, le temps, l'énergie que je peux consacrer à Dieu me rapproche toujours plus de lui. Alors, ce n'est pas perdre sa vie que de gagner Jésus-Christ. Ce n'est pas perdre sa vie que d'obéir au Dieu qui nous aime. Je voudrais terminer, je suis juste tellement encouragé par le Seigneur quand je vois des personnes dans notre Église qui, devant un choix d'avenir, prennent le réflexe de se confier en Dieu en cherchant sa volonté. Encouragé aussi quand des frères et sœurs sont dans une période d'épreuve, c'est difficile pour eux, et qui se rappellent justement ces passages, que leur vie n'est qu'une vapeur, mais confiants dans leur Dieu, ils demeurent persévérants dans la foi, dans les promesses de Dieu. Oui, notre vie n'est qu'une vapeur, on l'a lu, mais notre Dieu est éternel, il sait diriger nos pas dès aujourd'hui et nous offre le privilège, tous ensemble, de le servir concrètement. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour ton Église, Seigneur, merci pour la sagesse d'en haut qui est bien au-delà de la nôtre, bien au-dessus de la nôtre. Merci pour ta puissance de résurrection, bien au-dessus de notre vie mortelle, Seigneur, et qui nous donne Le sens, Seigneur, la direction pour toute notre vie, Seigneur. Je te prie pour que nos choix d'avenir soient inspirés par ta sagesse, que nous puissions être concentrés à regarder à Jésus-Christ. Quelle est ta volonté révélée, Seigneur, dans ta parole. Donne-nous l'amour toujours plus grand pour ta parole, Seigneur. Faire ta volonté, Seigneur. Nous avons vu Jésus-Christ qui a toujours fait la volonté du Père et qui était dans la joie, qui était dans la plénitude. Seigneur, nous voulons connaître cette même joie de faire ta volonté. Pardonne-nous toutes les fois où nous ne faisons pas le bien que nous aurions pu faire, mais Seigneur, maintenant, dès aujourd'hui, nous voulons marcher en nouveauté de vie, Seigneur, avec peut-être des nouveaux choix et laisser derrière des choix qui ne te glorifient pas. Je te prie encore que nous puissions continuer à nous bénir mutuellement par Jésus-Christ en assemblée. Amen.